peux vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que j'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Dans une première partie d'émission, vous pourrez entendre de la prise de parole de Pierre Stambou, représentant de l'Union juive française pour la paix. Cette prise de parole, elle, sera suivie de l'interview de Guy Dardel, militant du mouvement Immigration et banlieue, s'étant organisé en solidarité avec la lutte palestinienne pendant de nombreuses années.
Donc, je suis Pierre Stambou. Je suis porte-parole nationale de l'Union juive française pour la paix. Je suis prof de maths à la retraite. Je viens d'une famille de résistants juifs communistes venus d'Europe orientale, arrivés en France en 1938, engagés dans la résistance, dans la MOI, la main-d'œuvre immigrée, qui était le bras armé du Parti communiste pendant la Deuxième Guerre mondiale. Famille maternelle totalement exterminée, il n'y a que ma mère qui a survécu. Et mon père, comme ma mère était dans la MOI, il est probablement le seul rescapé de la rafle qui a décimé le groupe Manoukian. Il a été arrêté et torturé par la police française, livré à la Gestapo, mais déporté à Buchenwald et pas à Auschwitz, comme sa compagne de l'époque, il a survécu. L'UJFP existe depuis 1994. Moi, j'ai adhéré en 2002. Sur le mot d'ordre, au début, pas de crime en notre nom, mais très vite, les mots qu'il faut mettre sur cette guerre, c'est occupation, colonisation, crime de guerre, crime contre l'humanité, racisme, apartheid, suprémacisme. L'UJFP est une association juive antisioniste et nous sommes antisionistes parce que juifs, parce que nous savons très bien que le sionisme est un crime contre les Palestiniens, mais est une injure grave à notre mémoire, à notre histoire et à notre identité. Personnellement, j'ai été plusieurs fois en Palestine, deux fois à Gaza, et l'UJFP depuis 7 ans aide activement dans une solidarité un peu bilatérale les paysans du sud-est de la bande de Gaza. Mmh. J'ai été au Caire le 7 octobre avec un groupe de 7 solidaires, dont un député. On avait obtenu, après une lourde bataille, l'autorisation française d'entrer à Gaza par l'Égypte. Il nous a manqué l'autorisation égyptienne qui tardait à arriver. Et puis la guerre s'est déclenchée, on est rentré en France. Donc l'UJFP fait partie, c'est la composante juive du mouvement de solidarité. On fait partie de la campagne BDS, boycott des investissements sanctions. Et on est en lien avec les anticolonialistes israéliens et d'autres associations juives un peu partout dans le monde, dont la plus importante, c'est GVP, Jewish Voice for Peace, les voix juives pour la paix, qui est une organisation de masse aux États-Unis. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour.
Justement, au vu de toutes ces différentes activités, je suppose que depuis le 7 octobre, votre organisation, elle est amenée à s'exprimer. Comment est-ce que vous, vous avez décidé de réagir par rapport au récit, au discours, à la propagande médiatique à laquelle on peut assister en France?
Alors en plus, pour moi, je veux dire, les trois premiers jours, on est au Caire, et donc on a le récit palestinien, parce que notre correspondant à Gaza est venu à notre rencontre au Caire. Maintenant, il est bloqué au Caire, et dans sa maison à Gaza, il y a 150 personnes réfugiées, enfin bon, dans des conditions apocalyptiques, sans eau ni nourriture. Mais donc on a eu son récit, le récit d'un Gazaoui. Tout ça, tu le trouveras sur le site de l'UJFP, que je conseille à tous les auditeurs d'aller sur ujfp.org, où il y a des communiqués, des textes personnels de camarades de l'UJFP, et puis les textes de tous ceux que nous voulons bien publier, notamment les extraordinaires réactions des anticolonialistes israéliens. Et puis le jour où on partait est arrivé le Mokhtar, le chef traditionnel du village de Houza. Lui, il est parti sous les bombes, deux de ses fils sont morts, et là aussi on a eu un autre récit, mais totalement convergent avec le premier. Ce que je peux dire d'abord, avant de dire ce que l'UJFP a dit, c'est dans le récit palestinien, d'abord il serait complètement absurde de parler d'une riposte israélienne, ou de représailles israéliennes. La Palestine est occupée depuis 75 ans, Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est sont occupés depuis 56 ans, Gaza est sous blocus, avec une pénurie organisée, chronique, d'eau, d'électricité, de médicaments, de nourriture. Voilà, je veux dire que, comme disait assez justement Gideon Levy, les Israéliens ne devaient pas pouvoir s'imaginer qu'enfermer plus de 2 millions de personnes dans une cage à ciel fermé, ce serait sans réaction. Donc quelque part, pour la première fois, les Israéliens ont eu à subir ce que les Palestiniens subissent depuis 75 ans, et ce qu'ils sont en train de subir de façon épouvantable, ça ressemble de plus en plus à un génocide depuis maintenant 17 jours. Bon, j'approuve pas ce qu'ils ont fait. Ce que je veux dire, c'est que il est fréquent que dans toutes les guerres coloniales, le peuple colonisateur, quelque part, un jour, sa population civile finisse par subir des conséquences terribles de ce qu'elle a infligé aux autres. C'est malheureux, mais je veux dire, ça arrive. La Deuxième Guerre mondiale, Dresde ou Hiroshima, c'est ça. Ou pendant la guerre d'Algérie, les bombes du FLN dans les cafés français, c'est ça aussi. Donc je n'approuve pas, mais je comprends surtout que il faut comprendre la situation de Gaza. Ils n'ont plus d'eau. Toutes les installations qui sont autour de Gaza, les kibbutz, les moshavs et tout, on voit depuis la barrière les piscines, l'eau qui coule à flot. Il y a 150 puits qui interceptent la nappe phréatique au mépris du droit international. Et donc il faut comprendre que c'est une révolte du désespéré quelque part. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il serait complètement faux de dire que c'est une guerre d'Israël contre le Hamas. C'est une guerre d'Israël contre l'ensemble du peuple palestinien. À l'instant où cette guerre a commencé, toutes les factions palestiniennes ont arrêté ce qui est fréquent à Gaza. C'est-à-dire, moi, quand j'y étais, on entendait les pires critiques contre le Hamas, son autoritarisme, sa volonté de mettre à genoux la société palestinienne. Dès que les combats ont commencé, ça s'est arrêté. Les prisonniers israéliens, ils ont été répartis dans toutes les factions politiques de Gaza, y compris la gauche, y compris le Fatah. Alors maintenant, au niveau du JRP, il y a un rouleau compresseur incroyable qui a été « Que pensez-vous du Hamas ?» Et nous, on dit « Que pensez-vous du terrorisme de l'État d'Israël depuis 75 ans ?» Des crimes de guerre impunis, le sionisme, mais c'était sa volonté dès le départ, c'était de transformer les Palestiniens comme les Amérindiens du Proche-Orient, expulsés ou parqués dans leurs réserves ou massacrés. Et quand il a vu qu'il ne pouvait pas expulser tout le monde, il a procédé à une fragmentation de la Palestine en autant de sous-statuts de domination. Donc il y a Gaza qui est une prison à ciel fermé, il y a la Cisjordanie où la population affronte tous les jours la violence des colons et de l'armée. Il y a Jérusalem-Est avec un statut particulier, mais où la population se défend contre une tentative d'expulsion quotidienne. Il y a les Palestiniens de 48, ceux qui sont restés en Israël et qui subissent aussi l'apartheid. Plus de 50% sont sous seuil de pauvreté. Ils sont des citoyens de seconde zone. Mais justement, les Palestiniens ont conscience d'être un seul peuple. Et par exemple, à Gaza, chaque fois que la mosquée Al-Aqsa a été attaquée, chaque fois qu'on tirait sur le corps de Jenin, Gaza a toujours réagi. Et là, il y a des manifestations en Cisjordanie. Il y a une volonté, évidemment, de dire nous sommes un seul peuple et nous réagissons ensemble. Sans compter la solidarité des 7 millions de Palestiniens qui vivent un peu partout dans le monde, au Moyen-Orient, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Donc, la volonté, en gros, qu'est-ce qui est à l'œuvre aujourd'hui? Ce qui est à l'œuvre, et les gens n'en ont pas toujours conscience, c'est une deuxième Nakba, une deuxième catastrophe. C'est-à-dire, il est clair que les Israéliens veulent expulser une moitié, voire plus, de la population de Gaza vers le Sinaï ou vers ailleurs. Il est clair qu'ils veulent annexer l'essentiel de la Cisjordanie en ne laissant que quelques villes qui seraient des espèces d'îlots. Et ça, c'est à l'œuvre avec la complicité, avec l'aval des États-Unis. C'était le plan Kouchner. Et on dit, on répète que la responsabilité de la communauté internationale et en particulier de la France, elle est totalement énorme. C'est des décennies d'impunité, des décennies de complicité diplomatique, militaire et économique qui explique ce qui est à l'œuvre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a en Israël un gouvernement fasciste, je pèse mes mots, je suis juif, je sais ce que c'est que le fascisme, qui perpétue ouvertement des pogroms, et comme juif, je sais ce que c'est qu'un pogrom, mes deux grands-mères ont survécu au pogrom de Kishinev, avec l'aide de l'armée qui les protège. Et c'est ce gouvernement-là que tout l'Occident déclare État démocratique à protéger contre le terrorisme. Donc là, on a une espèce de remake de ce que ce pseudo-monde libre a fait au moment des guerres du Vietnam, au moment de la guerre d'Algérie, au moment où il installait des roitelets à la place des colonies en Afrique, au moment où il perpétrait les coups d'État fascistes en Amérique latine. Et là, c'est le peuple palestinien qui en est directement victime. Donc ce que nous disons, c'est qu'il faut aider le peuple palestinien, c'est important à tous les points de vue. Il faut l'aider à rester debout, parce que sa société ne s'y rompt pas. Ce qui est gravissime de tout ce qu'on lit et on voit sur Gaza, c'est qu'ils sont en train de détruire vraiment toute l'infrastructure de la société gazaoui, les universités, les écoles, les routes, les centrales électriques, la centrale d'épuration des eaux, c'est-à-dire qu'ils sont véritablement en train de transformer Gaza en un champ de ruines. Et il faut porter le combat idéologique ici, à l'Ouest. Il faut que nous, société civile, nous soyons assez forts, idéologiquement et dans la rue, pour contrer l'incroyable campagne qui est menée, qui vise à criminaliser les Palestiniens et à soutenir un régime fasciste. Quand on sait, par exemple, que Darmanin a interdit toutes les manifestations pour la Palestine, et ben c'est heureux. Il est en train de perdre en justice complètement. Il a perdu sur l'expulsion de Mariam, il a perdu sur la plupart des manifestations qui étaient interdites. La Cour de cassation vient de reconnaître que le boycott est légal. Il faut continuer dans la rue, devant les tribunaux, à se battre. Il faut continuer dans les médias. Il faut le faire partout, tout le monde a son rôle. Et en même temps, on comprend bien que la privation des libertés qui est en train de s'avancer en France, je dirais l'espèce d'illibéralisme comme Erdogan en Turquie ou Orban en Hongrie, ça avait commencé avec les gilets jaunes, ça continue avec les syndicalistes, c'est de tout temps avec les migrants, avec les sans-papiers, avec l'islamophobie, mais ça a véritablement pris un tour dramatique avec la Palestine. C'est-à-dire que c'est la complicité avec le sionisme et l'apartheid qui accentue en France la privation des libertés. Donc c'est doublement une affaire de tout le monde.
La manière, en fait, tout simplement, dont le gouvernement français s'empare de cette question, a un double intérêt pour lui, au sens où ça lui permet aussi d'accélérer sa politique intérieure.
C'est clair. Et je veux dire, ça veut dire que ces luttes sont liées. J'ai lu avec une certaine satisfaction tout à l'heure que les Soulèvements de la Terre avaient publié un communiqué en disant la Palestine, ça ne fait pas partie habituellement de notre champ d'intervention, mais cette fois, nous intervenons, nous sommes solidaires des Palestiniens. Et ils le sont pour la raison que je viens de dire, c'est-à-dire que les attaques contre les libertés fondamentales, l'attaque, la volonté de dissoudre Palestine vaincra ou de dissoudre les soulèvements de la terre, c'est bien lié.
Autour de la question de la solidarité internationale, toi, ça fait un certain temps que tu suis la lutte palestinienne et on a l'impression qu'il y a eu un virage au niveau de la manière dont les gens, enfin les gouvernements à l'international se sont appropriés ou ont complètement mis de côté la lutte palestinienne.
C'est un peu pire que ça, c'est-à-dire qu'il y a... Il continue à y avoir dans le monde, quand on voit l'ampleur des manifestations qui ont eu lieu à Londres, à Chicago, à Amman, à Marrakech, etc., il continue à y avoir une solidarité des populations avec la Palestine. Même en France, quand on interroge les gens, une majorité des gens pensent que c'est Israël le fauteur de guerre. Et il y a un divorce complet avec les élites de ce monde capitaliste et impérialiste qui, pour eux, Israël, c'est leur État et ils le défendent complètement à bout de bras. Il y a un enjeu énorme qui se passe aujourd'hui sur le monde arabe, c'est-à-dire que le monde arabe, le courant nasserien ayant disparu de longue date, ce sont les féodaux grassement enrichis par le pétrole, des féodaux patriarcaux et esclavagistes qui dominent le monde arabe. Ils appartiennent évidemment au même monde que le dirigeant d'Israël ou que ceux de l'impérialisme états-unien ou ceux de l'Union européenne. Et bien évidemment, ils ont commencé à signer des accords de normalisation, comme ils disent, avec Israël. Mais malgré ça, le monde arabe bouge et c'est quand même un espoir. Les premières manifestations en Égypte depuis le coup d'État de Sissi ont eu lieu au Caire et à Alexandrie sur la question de la Palestine. J'ai des coups de téléphone avec Amman presque tous les jours. Tous les jours, il y a des manifestations monstres en Jordanie, au Maroc, qui a signé les accords d'Abraham aussi. Et puis bon, dans le monde occidental, à Londres, la manifestation, ils étaient plus de 100 000 et tout, Chicago, pareil. Donc le monde réagit, c'est heureux, et les Palestiniens nous le disent, hein, cette guerre, elle se joue sur deux fronts. Leur capacité à eux de continuer à faire société malgré tout ce qu'ils subissent, et notre capacité à nous de peser sur nos dirigeants. Ce qu'on est encore incapable de faire, mais ça progresse quand même. Il faut quand même signaler que cette guerre a interrompu les négociations de normalisation qui avaient lieu entre Israël et l'Arabie Saoudite, et que les manifestations d'Amman ont empêché la réunion qui devait avoir lieu à Amman entre Biden, le roi de Jordanie, Sissi et Mahmoud Abbas. Donc voilà, ça compte. La réaction des peuples, elle est fondamentale.
Tu es revenu aussi au début de cette interview sur les organisations antisionistes israéliennes. Ayant peu d'informations là-dessus, j'aurais voulu savoir comment est-ce que elles ont même la possibilité de réagir. Qu'est-ce qui se passe là, peut-être pour elles, en Israël?
Il y en a une que je l'ai citée parce qu'elle se bat depuis 30 ans, c'est Nourit Peled. Nourit Peled, il y a 30 ans, sa fille Smadar, qui avait 14 ans, est morte dans un attentat du Hamas à Jérusalem. Et elle a écrit à Netanyahou, tu forces nos enfants à être assassins ou à être assassinés. Et les réactions des anticolonialistes israéliens, je citerai les journalistes Amiras et Gideon Levy qui écrivent dans Haaretz, je citerai l'historien Ilan Pappé, ils disent en gros, oui, nous avons des proches parmi les morts ou parmi les gens qui sont enlevés, mais la responsabilité totale revient à un gouvernement raciste et suprémaciste qui, en faisant ce qu'il inflige à la Palestine, nous met en danger nous aussi. Et notre association sœur GVP aux États-Unis a une réaction exactement la même et ils font des veillées aux chandelles à la mémoire des morts à Gaza. Quoi. Donc on a ces réactions de gens qui ont gardé les valeurs morales. Maintenant, il faut comprendre qu'en Israël, ils sont très minoritaires parce que des décennies d'impunité ont fait que dans ce pays, tuer l'autre, tuer le Palestinien, c'est devenu un geste normal.
Ce qui se passe aussi peut-être et qui joue sur l'interprétation de ce conflit, c'est la disparition qu'on regrette par ailleurs, mais de mouvements internationalistes forts et importants.
Alors bon, comment dire, les anticapitalistes en règle générale soutiennent la Palestine et tout. Le problème, si on parle de la France, c'est que la parole anticoloniale n'ayant jamais été dite après les indépendances africaines ou après la guerre d'Algérie, on en a des réminiscences énormes. Et la réaction scandaleuse qui aboutit à ce qu'Anne Hidalgo décore la Tour Eiffel aux couleurs d'Israël, c'est la suite logique de ce que cette composante politique a fait quand elle faisait tourner la chaîchette en Algérie. C'est-à-dire le fait que la parole anticoloniale n'ait pas été dite, le fait que les crimes que le colonialisme français n'ont jamais été explicités, bah, ça permet que ça recommence sur le dos du peuple palestinien. Ça, pour moi, c'est indéniable. Après, il y a aussi, je crois, qu'en France, le fait que, depuis quelques années, le débat est empoisonné par une haine contre les musulmans et les migrants, qui, moi, juif, me rappelle le discours sur les juifs dans les années 30, ça aboutit aussi à ça, c'est-à-dire de dire que les victimes, c'est les Israéliens, alors que depuis 75 ans, les victimes sont les Palestiniens. Ça empêche une gauche qui devrait savoir que une des règles de base, c'est de ne jamais confondre l'occupant et l'occupé, l'oppresseur et l'opprimé, le dominant et le dominé. Et malheureusement, on a une pseudo-gauche qui n'en est absolument pas là. L'espèce de débat de fou qui a eu lieu en France quand Amnesty International a dit qu'Israël était un état d'apartheid, c'est-à-dire, on peut voyager quand même. À Gaza, c'est dur, je ne suis pas arrivé. Mais en Cisjordanie, on peut y aller. Les gens qui doutent qu'il y a un apartheid israélien, je dis toujours, allez passer 15 minutes à Hébron et on discute. Dire qu'il n'y a pas d'apartheid en Israël-Palestine de la part des dominants, je vais employer encore un mot très juif, c'est du négationnisme. C'est nier une évidence complète à des fins de manipulation de l'histoire pour perpétrer d'autres crimes. Et c'est ça aujourd'hui. Donc nous aussi, on a à lutter là-dessus. C'est-à-dire qu'on a véritablement une lacune et un rapport de force qu'on n'arrive pas à imposer dans les médias, parmi nos élus.
Alors justement, face à toute cette propagande médiatique, pour terminer, ce que j'aimerais te demander, c'est, à ton avis, selon toi, c'est quoi les pièges dans lesquels pas tomber quand on entend parler du conflit israélo-palestinien?
Alors déjà, tu viens de tomber dans un piège, tu ne parles pas de conflit. Voilà, le mot conflit, il suppose des parties égales et tout, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une guerre de destruction d'un occupant contre un peuple occupé. Donc voilà, est-ce que entre les nazis et la résistance à laquelle appartenaient mes parents, est-ce que c'était un conflit? C'est clair que non, d'accord. Donc on n'utilise pas ce mot-là qui signifie deux armées à part égale, ça n'a rien à voir. Ensuite, il y a le mot terrorisme. Je veux dire que quand on dépolitise ce mot, ça n'a aucun sens. Mandela a été considéré comme un terroriste, même après qu'il ait été libéré par les États-Unis, qui considéraient toujours que l'ANC était un mouvement terroriste. Les résistants, le groupe d'induction auquel mon père appartenait, c'était l'armée du crime. Le FLN algérien, c'était des terroristes. Donc, terroriste, c'est le mot de l'ennemi. Il y a un terrorisme d'État qui s'exerce depuis 75 ans contre le peuple palestinien. Ça, c'est un terrorisme d'État documenté avec des dizaines de massacres qui ont eu lieu, qui n'ont jamais été punis. Dans l'idée d'isoler le Hamas, je n'aime pas du tout ces gens-là. Je les ai en plus rencontrés à Gaza. Voilà, c'est des opposants politiques. Mais voilà, c'est une des composantes de la résistance palestinienne. Et si elle a pris cette importance-là, c'est bien à cause de l'occupation. Si le Hezbollah a pris l'importance qu'il a au Sud-Liban, c'est bien parce qu'il y a eu 20 ans d'occupation coloniale du Sud-Liban. Donc on arrête là aussi d'inverser les rôles. Je souhaiterais bien entendu que la force dominante de la résistance palestinienne soit plutôt ceux avec lesquels idéologiquement je suis plus en accord. Mais ceux-là aussi sont traités de terroristes. Mariam qui est chez moi, dans l'acte d'accusation d'Arbana, c'est l'accusation d'être au FPLP terroriste. Voilà, c'est complètement stupide. Le FPLP est bien évidemment un des mouvements palestiniens de la résistance. Donc voilà, il y a un certain nombre de mots et de vocabulaire qu'il faut enlever. Après, je vais dire qu'il faut dire la réalité de ce qu'est Gaza et de ce qu'ils subissent aujourd'hui. C'est-à-dire, les mots que utilisent tous mes amis gazaouis avec qui j'ai pu parler, c'est Hiroshima, génocide. C'est les images que nous recevons, il faut les propager. Si on n'arrive pas à les propager, il faut les décrire. Mais ce qui se déroule, et sans aucune commune mesure, c'est la Deuxième Guerre mondiale, c'est Coventry, c'est quelque chose de... Aujourd'hui, ils disent 5 600 morts, quand on va relever tous les gens qui sont dans les décombres, on en sera à 10 000 ou 15 000. C'est un génocide qui est en train de se passer. C'est une guerre coloniale qui est menée par un gouvernement suprémaciste et fasciste à des fins d'expulsion et à des fins d'annexion. Et c'est mené avec la complicité de l'Occident, et c'est mené parce que c'est rendu possible par des décennies de complicité et d'impunité. C'est ça le discours.
While we listen to tunes made by ignorant fools, Israel blocked the UN from delivering food. They bring in the troops and you won't even glimpse at the news. They make money off the products that we're quick to consume. And it's not simply a question of differing views. Forget emotions, this is facts, what I spit is the truth. Makes no difference if you're a Christian or if you're a Jew. They're just people living in different conditions to you. They still die when you bomb their schools, mosques and hospitals. It's not because of rockets, please God, can you stop this all? I'm not related to the strangers on the TV, but I relate, cause those strangers could have been me. Words could never ever explain the raw tragedy. It's not a war, they're just murdering more rapidly, and we're automatically supporting pure savagery. Imagine how you feel if this was your family. Palestine remains in my heart forever. We stand for peace, times of war, we shan't surrender. Remember, it didn't start in this dark December. Every coin is a bullet if you're Marks and Spencer. And when you're sipping Coca-Cola, that's another pistol in the holster of them soulless soldiers. You say you know about the Zionist lobby, but you put money in their pocket when you're buying their coffee. Talking about revolution sitting in Starbucks. The fact is, that's the type of thinking I can't trust, let alone even start to respect. Before you talk, learn the meaning of that scarf on your neck. Forget Nestle, get Obama, promise Israel 30 billion over the next decade. They're trigger happy and they're crazy. Think about that when you're putting Huggies nappies on your baby.
Free my people.
It's not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in.
Alors, nous sommes avec Guy. Tu as particulièrement suivi tout ce qui était le soutien au peuple palestinien depuis pas mal d'années. Donc, tu vas pouvoir nous parler un peu de l'historiographie du soutien au peuple palestinien en France. Donc, pour commencer, ce serait bien que tu te présentes.
Que je me présente, je m'appelle Guy. J'ai, en tant que responsable du lieu, été chargé pendant un moment de la sécurité des manifestations pro-palestiniennes sur Paris. Et puis, je suis attentif à la question palestinienne depuis le début des années 70. Il se trouve que le soutien à la révolution, puisqu'on appelait comme ça le mouvement palestinien, la révolution palestinienne, a pris plusieurs aspects. Et quand j'ai quitté l'effectivité de militance autour de ce soutien dans les années 2010, il se posait déjà un certain nombre de problèmes par rapport à l'apparition et du Hamas comme forme prépondérante dans les territoires occupés et la bande de Gaza, et l'apparition sur le terrain politique ici en France de groupes liés à cette perspective. On pourrait dire que l'un suit l'autre, c'est-à-dire que la disparition des organisations de gauche du mouvement de libération de la Palestine, de l'OLP, sa sécularisation dans ce qu'il y avait de plus réactionnaire et de plus spoliant dans l'OLP, c'est-à-dire ceux qui dirigent aujourd'hui l'autorité palestinienne, Abou Mazen notamment, qui est pour l'instant le président de l'autorité palestinienne en Cisjordanie, pose problème. À partir de ce moment-là, c'est dégagé une perspective qui fait une différence aussi sur les questions de terrorisme dont il est encore question aujourd'hui. On en revient aussi à l'idée que dans la situation d'aujourd'hui, l'émergence du Hamas est une volonté politique au départ d'Israël. Tout ça pour mettre en porte-à-faux la direction palestinienne à l'époque assumée par Yasser Arafat, qui, tout autocrate qu'il était quand même représentant de la lutte armée du peuple palestinien, qu'il avait menée depuis le début des années 60 en Palestine, et qui avait réussi et abouti aux accords d'Oslo dans les années 90. Accords d'Oslo stipulant d'une part le retrait de l'OLP, de la charte fondatrice de l'OLP qui signifiait de rayer de la carte Israël. Donc un compromis sur la base de deux États, et Israël acceptant qu'il y ait un État palestinien, donc dans des frontières garanties, qui était en partie récupéré sur l'occupation israélienne des territoires occupés après la guerre de 67. Donc il y avait un compromis, et un compromis, ça demandait un effort de chacun vers l'État palestinien, qui était la demande la plus forte qui existait du côté palestinien à l'époque. Ce compromis a été tué par l'apparition du Hamas d'un côté, qui a refusé de se plier aux injonctions de ce que proposaient les accords d'Oslo, pour s'opposer à la direction palestinienne et Yasser Arafat. Ça entraîne à l'époque des affrontements très virulents à l'intérieur du mouvement palestinien, des affrontements armés avec des dizaines de morts dans les territoires occupés et tout ça. Et puis la reprise des attentats qui satisfaisaient Israël. Il faut aussi dire que la droite israélienne qui est aujourd'hui au pouvoir sont les acteurs du torpillage des accords d'Oslo. J'en veux pour preuve que la personne qui a tué à l'époque le représentant israélien pour les accords d'Oslo, ce militant était membre des organisations qui sont aujourd'hui au pouvoir en Israël. Donc il y a une boucle qui s'est bouclée par le fait que l'apparition du Hamas intéressait beaucoup Israël, qu'elle l'a subventionné à travers ses liens avec le Qatar, et que de l'autre côté, c'est-à-dire ici, les représentations palestiniennes qui étaient traditionnellement tenues par l'OLP, malgré les nombreux attentats qui ont eu lieu sur le territoire français pour tuer ses représentants, dans les années 70, dans les années 80, 4 ou 5 des représentants de l'OLP ici à Paris ont été assassinés. Que donc, malgré cette emprise, on se trouve dans cette contradiction aujourd'hui, où il n'y a plus, alors avec tout le champ émotionnel qui s'est ouvert là, de possibilité de mettre en discussion ce qu'est la légitimité du peuple palestinien, c'est-à-dire d'obtenir un État sur les territoires occupés.
Tu parlais de l'assassinat de Isaac Rabin, qui a été assassiné par donc une faction qui est aujourd'hui au pouvoir.
Isaac Rabin n'étant pas l'expression d'une gauche israélienne. Hein. Isaac Rabin, c'était un modéré qui avait été général de l'armée israélienne, participant aux guerres. Israël avait choisi à un moment, autour de la gauche travailliste, d'accepter finalement qu'il y ait un État palestinien pour en terminer avec un affrontement permanent entre des gens dénués de pouvoirs politiques et sociaux sur les territoires sur lesquels ils habitent, donc les Palestiniens, pour régler définitivement ce problème. Évidemment, Netanyahou et l'extrême droite a toujours refusé, preuve en est de ce qui se passe aujourd'hui en Cisjordanie, c'est-à-dire de nouveau la colonisation, c'est-à-dire une reprise en main des territoires dits territoires appartenant aux Palestiniens à travers les accords d'Oslo, des territoires historiques, la Cisjordanie notamment, et qu'aujourd'hui, on voit, il y a eu plus de 200 morts depuis le début de l'année du côté palestinien, parce que l'armée et les colons s'adjurent le droit de pouvoir reprendre des terres d'une manière militaire, en tuant les gens qui habitent sur ces terres. Donc confronté à ça, le mouvement aussi a pris une figure différente en Europe. C'est en France que la question du soutien au peuple vacciné a été le plus posée à travers l'extrême gauche, à travers aussi le fait qu'il y ait une immigration arabe consistante. Donc il y a eu du travail politique fait dans les années 70 et 80 sur ces questions-là. Et puis le fait que des gens comme les Lachaïde ou d'autres aient continué à faire ce travail et en liaison avec les organisations de soutien à la Palestine. Depuis le début des années 2010, par contre, se sont placés sur le terrain du soutien à la Palestine des gens qui ont une perspective différente. L'OLP n'était pas une organisation musulmane. Preuve en est que quelques-uns de leurs principaux dirigeants, si on prend le cas de Georges Habash pour le FPLP, de Naïef Ouattemé pour le FPP, étaient des chrétiens, comme 25% du peuple palestinien. Il y a aussi des druzes qui n'ont pas les mêmes attributs religieux. Donc c'est au nom de cette pluralité que l'OLP était laïque, était de représentation laïque, même si Yasser Arafat était un pieux musulman. Il ne changeait rien que dans la charte, ces choses-là n'étaient pas prises en compte. Donc la dérive vers une arabisation et en même temps muslimation, c'est un truc comme ça, un versus musulman, a pu se produire après l'apparition du Hamas là-bas, comme en France, dans les mouvements de soutien. Donc au début des années 2010, on a vu des gens se proposer à remplacer le MIB comme service d'ordre officiel des manifestations palestiniennes. J'étais moi représentant du MIB pour la sécurité de ces manifestations, et il a fallu se mettre à discuter avec des gens qui étaient d'une manière assez évidente structurés par des États. Des États qui, tout d'un coup, étaient devenus musulmans, puisqu'en général, l'Irak, il faut se rappeler que certaines apparitions politiques des pays soutenant la Palestine officiellement, bien qu'elle l'ait soutenue en la torpillant plusieurs fois, que ce soit l'Irak, l'Arabie Saoudite ou d'autres, apparaissaient comme laïcs. Le parti Basse régnait sur l'Irak, sur la Syrie, ce qui est encore le cas aujourd'hui, et qu'il a fallu aussi que ces gens se prononcent sur les questions religieuses, le fait religieux devenant, autour de l'intervention de l'État islamique, de Daesh, toute une série de choses, absolument nécessaires. Je ne vais pas revenir sur le jeu et les contradictions qu'il y a eu pays par pays, parce que là on en aurait pour plusieurs heures. Mais de fait, cette question a émergé à partir de 2010 et a commencé à transformer aussi bien les réalités sur le terrain là-bas que les réalités sur le terrain ici, dans les mouvements, dans le mouvement de soutien. Donc il y a eu la proposition d'une part de la gestion par des organisations liées à certains pays, comme garantissant la sécurité des manifestations palestiniennes, et l'émergence d'un discours religieux à l'intérieur de ces manifestations. Toutes ces contradictions ont abouti à la désertification, et que même les manifestations qu'il y a eu ces derniers temps, dans Paris ou en province, étaient très limitées, 3, 4, 5 000 personnes, même dans la capitale. Et là, je voudrais revenir sur une chose, c'est qu'à l'intérieur du mouvement palestinien a émergé quelque chose qui est une dynamique de résistance à l'intérieur des territoires occupés, qui a donné lieu aux deux intifadas, c'est-à-dire les soulèvements de la jeunesse, les soulèvements non armés, violents dans le sens de manifestations violentes contre l'occupation dans les territoires occupés, qu'autour de ces manifestations a émergé une nouvelle structuration politique et des nouveaux cadres politiques liés pour l'essentiel à des organisations de l'OLP, et que tous ces gens-là ont été emprisonnés. On prend le cas de Marwan Barghouti comme exemplaire par rapport à cette dynamique. On est là dans les années 90 et jusqu'aux années 2000, que tous ces gens-là ont été emprisonnés à vie. C'est-à-dire que tous ces cadres qui ont émergé de la résistance du peuple palestinien à l'oppression israélienne ont été radiés à vie, et qu'il a fallu pour Israël renforcer le Hamas ou le djihad islamique par des moyens qui sont les moyens du contre-espionnage israélien, qui est très fort, même là, s'il a montré ses limites ces derniers temps. Après, le fait qu'après les accords d'Oslo, il n'y a pas eu de potentialité de reconstruire, ni à l'intérieur du mouvement palestinien, ni à l'intérieur de la résistance en Israël à la guerre et à l'oppression des Palestiniens des mouvements puissants, tels qu'ont été le mouvement de la paix à un moment en Israël, ou le mouvement des jeunes en Palestine, tient aussi au fait que les accords d'Oslo ont été torpillés, que toute forme d'accord possible entre les uns et les autres, c'est l'extrême droite israélienne qui est montée au créneau, et on pourrait dire l'extrême droite palestinienne, si on peut parler en termes politiques, qui sont représentées par le Hamas. Le Hamas, ce n'est pas seulement une organisation anti-israélienne, c'est aussi une organisation intégriste, qui impose les lois de la charia dans les territoires qui dominent. Il faut aussi avoir conscience de ce que ça représente pour le peuple palestinien, qui était un peuple de l'islam modéré, comme tous les peuples de cette région. Après, les jeux politiques dans les différents pays ont été modifiés. La difficulté de lire la situation palestinienne comme l'émergence d'une révolution et d'en faire plutôt un soutien humanitaire victimaire, on pourrait dire, c'est-à-dire il faut défendre les victimes quelles qu'elles soient, n'est pas la tasse de thé de beaucoup de militants qui ont soutenu la Palestine comme une force révolutionnaire, une forme de gens agissant, transformant la vie sociale aussi autour des comités de base, notamment par rapport aux intifadas et tout ça, et la manière dont ont été coordonnées les choses, et que, quelque part, aussi bien la direction palestinienne officielle qu'Israël s'est trouvée renforcée par le fait d'une corruption énorme dans les territoires occupés, gérée par la direction de l'OLP, que les vieux dirigeants marxistes ont disparu, ils sont morts, que leurs organisations ont périclité, et que ça a donné une espèce d'opacité à la réalité du mouvement palestinien qui ne trouve plus de soutien qu'à travers la victimologie, et non plus à travers la révolution dont il se proposait d'être le bras armé dans toute la région, hein, parce que on rappellera que le mouvement palestinien s'est heurté violemment avec le roi de Jordanie, ça fait plusieurs centaines de milliers de morts, tout ça, qu'ils ont été partie prépondérante aussi dans l'émergence d'un front révolutionnaire pendant la guerre au Liban, que du côté des camps, aussi bien en Syrie qu'au Liban, voire en Jordanie, les soulèvements populaires des Palestiniens faisaient peur au pouvoir en place. Donc la nécessité d'être le fer de lance de la révolution dans cette région a aussi disparu quelque part. Et que le mouvement, qu'on le veuille ou non, historique de soutien à la Palestine était aussi lié avec cette réalité. Donc son affaiblissement est dû au retrait de cette réalité et à l'acceptation par la direction palestinienne d'un compromis qui n'est pas un compromis, puisque Israël fait encore ce qu'il veut aujourd'hui dans les territoires occupés, on le voit ces derniers mois. Alors on peut aussi s'interroger sur le fait que le Hamas, qu'on le veuille ou non, a reposé la question. C'est pas forcément fondamentalement peut-être ce qu'il cherchait, mais a reposé la question du fait palestinien. C'est-à-dire ce fait palestinien jusqu'à l'extermination des gens. Quand on chasse les gens de la bande de Gaza, on chasse les gens qui se sont réfugiés dans la bande de Gaza après la Nakba, c'est-à-dire après le fait qu'Israël, l'État d'Israël se soit créé et voulu expulser l'entièreté du peuple palestinien en 1948. C'est-à-dire qu'avant, la Palestine était occupée par les Anglais. Donc il était question d'une lutte de libération, aussi bien du côté israélien une fois le sionisme arrivé. Je voudrais dire deux mots sur le sionisme aussi, puisqu'on entend beaucoup de gens péroraux ces derniers temps sur le sionisme, comme quoi le sionisme et l'antisémitisme seraient la même chose. Quand on est antisioniste, on serait donc antisémite. Je suis désolé, on peut être contre une proposition politique qui a émergé à travers le 19e siècle par des théoriciens israéliens, juifs, Theodore Herzl, mais que cette proposition politique est ce qui a donné l'État d'Israël, d'un certain côté, mais qu'elle est aussi une proposition politique autonome de l'existence d'un peuple juif. Il y a des tas de juifs de par le monde qui ne sont pas sionistes, y compris en Palestine. Donc c'est une proposition politique, et on peut être contre une proposition politique sans être antisémite. Je voudrais prendre dans l'histoire un affrontement qui me semble sensé sur cette question-là. Quand Hannah Arendt avait été reçue par Golda Meir au début des années 60, en pleine réception, on avait fait une fête à Hannah Arendt comme grande philosophe juive, chose qu'elle réfutait d'ailleurs, parce qu'elle disait que la philosophie n'appartenait pas à la religion. Alors de la religion, elle a discuté donc avec Golda Meir, le soir même de cette réception, elle a rompu, elle est sortie de la réception d'accueil en se levant, en disant ce n'est pas possible d'interdire les mariages entre juifs et arabes sur le territoire. Et ça, c'est le sionisme et la version très rigoureuse du sionisme que vous proposez en tant qu'État d'Israël. Pour moi, c'est ségrégationniste comme position. Donc on voit bien que même à l'intérieur du mouvement juif en général ou de la communauté juive, des divergences ont eu lieu sur ces questions-là. Évidemment, il y a aussi la partie prenante de l'État français qui, elle, confond le soutien à la Palestine à de l'antisémitisme, hein, grosso modo en disant « nous, on sélectionne les victimes ». Les bonnes victimes, c'est du côté d'Israël, et les mauvaises victimes, c'est du côté des Palestiniens. Alors, les Israéliens ont réduit la chose en massacrant déjà 4 ou 5 000 Palestiniens. La question des otages est une question qui ne se pose pas, parce que la guerre, c'est une prise d'otage générale. Les gens qui sont à Gaza aujourd'hui sont pris en otage. Ils ne peuvent pas sortir, donc on leur bombarde sur la gueule. On ne leur demande pas de sortir leur cadre du Hamas avant de bombarder, de dire c'est tel et tel. On leur dit qu'il faut vous réfugier dans le sud alors qu'on bombarde aussi le sud. Bon, c'est des trucs qui sont invraisemblables qui se passent. Et je pense qu'il faut raison garder. Je pense que du côté israélien, je l'espère, il va émerger une gauche plus virulente. Parce que l'État israélien a montré son vrai visage ces derniers temps en essayant de réformer et de fasciser le pouvoir à un point de dire qu'il n'y a plus de justice autonome des formes du politique. C'est ça la réforme judiciaire. Je la synthétise, mais c'est grosso modo ça. Alors c'est aussi des formes qui existent de fascisation des États dans tout le monde occidental. Hein. C'est pas propre à Israël. Mais disons qu'en Israël, ça veut dire que c'est les États qui sont en même temps juges et partis, mais surtout juges, qui deviennent juges, et qui peuvent s'abstenir de la question, par exemple, des droits de la guerre, comme on le voit là. De la même manière, on pourrait faire une similitude avec l'État français, où le ministre de l'Intérieur se propose, lui, en disant « mais on peut expulser qui on veut, et on s'en fout des lois internationales ». C'est ce qu'a dit Darmanin la semaine dernière. Il a dit « je préfère expulser tel et tel, et être après condamné par la Cour internationale ». Des droits de l'homme. Donc ils s'en foutent des traités qu'ils ont eux-mêmes signés, hein, ça veut dire. Hein. Ça veut dire on s'en fout du droit. Donc je ne suis pas un fanatique du droit, mais jusqu'à présent, les États s'est sommé de respecter les engagements qu'ils avaient pris. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement dangereux dans la tendance actuelle qu'ont les États occidentaux à la fascisation, à refuser les normes du droit comme valables ou interprétées. Et l'affaire Benzema est intimement liée à ça. Il suffit de désigner telle personne comme susceptible d'avoir à faire quelque chose, parce que c'est aussi ça, le discours sur le terrorisme. Ils mentent en permanence quand ils disent qu'il y a des lois sur le terrorisme qui sont spécifiques. Non, ils ont été étendues, ces lois. En matière criminelle, par exemple, les lois qui stipulent que des gens peuvent être condamnés sur le fait de dire qu'ils étaient en préparation d'un acte criminel. Ça veut pas dire que l'acte a été fait. Hein. Ça veut dire qu'on pense, nous, qu'ils étaient en préparation. Ça, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme disait Coluche. Alors, évidemment, il suffit de faire du renseignement et de falsifier ce renseignement, comme on est les seuls à en faire du côté de la police, pour dire telle personne, il faut l'éliminer, il faut le sortir du jeu politique, voire l'expulser s'il est étranger. Hein. Et puis, il y a quelque chose quand même qui est fantastique, c'est qu'on reparle de loi sur l'immigration dans ces affaires de terrorisme, alors que la majorité des attentats qui ont été faits sur le territoire français ont été faits par des gens qui étaient français. Après, il y a des vérités qu'on sait aujourd'hui qu'on ne savait pas avant. Est-ce qu'on sait que les GIA ont été instrumentalisés par le pouvoir algérien pour convaincre les États qu'il fallait maintenir le FLN au pouvoir ? Et qu'à un moment, le gouvernement algérien était en porte-à-faux, il risquait d'émerger le fils, machin et tout ça. Donc, ils ont instrumentalisé les GIA pour qu'ils fassent des attentats en France, pour que la France se mette à soutenir le FLN. Ça, c'est vraiment des choses qui se savent. Donc, le jeu d'apparition du terrorisme, quelque part, c'est aussi un jeu entre les États, qui ne concerne pas ni les formes de résistance, bien au contraire. Plusieurs cas en Algérie où on sait très bien qu'il était par exemple impossible que plusieurs milliers de prisonniers s'évadent à un moment. Donc dans les gens qui sont évadés, il y avait Jamel Zitouni et d'autres qui étaient un agent des services spéciaux, tout ça, y compris la direction du mouvement. C'est-à-dire que les attentats qui se sont faits en Algérie comme des attentats qui se sont faits en France étaient couverts par le FLN, c'est eux qui les commanditaient. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir. dont le gouvernement français était tout à fait au courant d'ailleurs, hein, ça ne l'a pas empêché de soutenir pour des raisons encore une fois économiques, puisque ça c'est pas du terrorisme, plus que les raisons économiques prennent le pas sur la vie des gens. C'est-à-dire qu'on dise, grosso modo, pour que le prix du gaz ou du pétrole soit moins cher, il faut quand même faire des arrangements avec ces gens-là. C'est ça aussi qui détermine la politique internationale pour les pays occidentaux. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair sur la question de la résistance palestinienne. Donc moi, j'ai l'espoir quand même qu'il naisse une hypothèse du côté israélien, puisque c'est eux qui sont en rapport de force, hein, il ne faut pas se le cacher. L'émergence de la puissance américaine derrière eux, ils jouent certainement pour beaucoup. Du remords aussi historique des peuples européens par rapport à leur absence de réaction par rapport au génocide contre les juifs pendant la guerre, que ça traîne encore aujourd'hui dans les interprétations des choses. Il y a des gens qui sont forcément victimes puisqu'ils l'ont été une fois dans la... Mais on peut être un peuple qui a été victime et devenir soi-même bourreau. Hein, ça aussi, ça s'est vu dans l'histoire. C'est les victimes de la guerre de 14-18, le peuple allemand qui a été mis sous l'été noir, dans les, on pourrait dire les dommages de guerre qui leur ont été imposés, une misère noire dans les quartiers qui a amené Hitler au pouvoir. C'est ça. Parce que, c'était un pays où il y avait le plus grand parti communiste européen. Tout le monde pensait que la révolution se ferait là-bas en premier. Comment tout ça a été détruit? Ça a été détruit aussi par le jeu des puissances qui, en écrasant l'Allemagne, en reprenant le pouvoir économique sur l'Allemagne, a fait le jeu d'Hitler. Donc tout ça, c'est des jeux d'État contre lesquels les populations doivent les comprendre, les interpréter et se battre contre. On peut en tirer ça aujourd'hui, ça prendra certainement du temps en Palestine, dans la condition où il faudrait qu'Israël comprenne que ça ne sert à rien de bloquer l'émergence de nouvelles générations politiques dans le peuple palestinien. Ça ne sert qu'à freiner et à produire du Hamas par le ressentiment. C'est-à-dire que les gens ne trouvant plus d'issue, étant complètement étranglés, ils vont se lier à toute forme d'activité et tout ça. D'activité, voire de terrorisme, il faut appeler les choses telles que c'est. Je pense que tuer des civils à Kalachnikov ou gorger des gens, c'est pas terrible. Hein, on ne peut pas appeler ça des actes de résistance. Et rester fidèle à une sémantique par rapport à ça. La sémantique veuille que l'attaque aux populations civiles qui ne sont pas engagées dans les conflits, c'est ça, du terrorisme, de tuer des gens qui ne sont pas des forces armées légitimes des pays. Après, pour moi, la guerre est une forme de terrorisme. Hein. Les guerres modernes, encore pire que les guerres anciennes. Donc, je pense que quand on disait l'OLP, les Brigades Rouges, tout ça, c'est du terrorisme. Moi, je refuse ça, par exemple. Je peux dire que s'il y avait une guerre entre des États, entre des réalités sociales, des conflictualités et tout ça, et qu'il n'y a pas de civils qui ont été tués dans cette guerre. Il n'y a que des gens en rapport de pouvoir qui étaient tués. D'ailleurs, il y a un texte des Brigades Rouges assez intéressant sur le fait qu'ils disent qu'ils n'utiliseront plus de bombes. Ils ont utilisé une fois une bombe contre des fascistes, et puis ils ont été obligés d'intervenir sur les lieux parce qu'il y a des gens qui passaient par là et tout ça. Ils ont dit non, on ne fera plus ça. Il faut se rappeler aussi que les terroristes, pendant l'oppression allemande sur toute l'Europe, c'était les militants communistes qui se battaient. Qui ont été réhabilités, soi-disant, par Macron, qui pensent que ces gens-là se sont battus pour la France. Bon, ça, c'est aussi une interprétation historique sur laquelle il y aurait quelque chose à dire, et c'est le Parti communiste qui porte cette responsabilité historique d'avoir fait passer Missak Manouchian pour la résistance française, en supprimant le fait que c'était la Moé. Pour leur nier, le poème d'Aragon, ils sont morts en criant la France. Mmh. Ouais. Qui était là pour en témoigner, déjà, vu qu'ils sont tous morts, à part les Allemands qui étaient présents, personne n'a pu en témoigner. Mais ça m'étonnerait que les militants communistes d'Europe de l'Est, qui étaient pourchassés aussi bien par Vichy que par les Allemands, n'aient eu comme souci que de mettre la France en avant au moment où ils étaient exécutés. Hein, faut quand même pas se foutre de la gueule du monde. Donc ça, c'est aussi la légitimité du fait que l'honneur de la France, par moment, a été sauvé par les étrangers. Et non pas par des Français. Le dernier film de Godard, ça s'appelle « Adieu au langage ». Ça met en perspective, comme ça Godard était un grand manipulateur d'images, de sons et tout ça, des sons qui s'entrecroisent, qui s'entrechoquent, des images de guerre avec des fictions de guerre et puis des films de reportage et tout ça. Et ça montre que plus personne ne sait reconnaître le vrai du faux là-dedans. Et c'est aussi un des dangers dans lequel on se trouve aujourd'hui. Dans l'emploi des langages, il y a des sous-entendus où personne ne se comprend plus. Parce que personne ne parle de la même chose en employant pourtant le même langage. Ça, Il y a des livres historiques très importants par rapport à ça, celui de Victor Klemperer sur la transformation du langage par les nazis, c'est-à-dire de vider les mots de leur subjectivité, de leur sens subjectif. Et ça, on est en train de vivre ces périodes de politiquement correct et tout ça, où on vide les mots de leur contenu. Et on cherche toujours à faire qu'un mot, il ait une représentation dans l'ordre des pouvoirs. S'il est employé par le pouvoir pour définir telle chose, c'est ça le vrai. C'est ça, et ça, il faut s'en méfier absolument. Ce qui implique qu'au mieux d'être piégé par l'émotionnel en permanence qui ne permet pas de réfléchir, il faut malgré tout réfléchir.
Voilà, c'est sur ce que se termine cette émission.
Don't get offended by facts, try and listen. Nothing is more anti-Semitic than Zionism. So please don't bring bad vibes when you speak to me. There's plenty of rabbis that agree with me. It's your choice what you do with this message. Don't get it confused, I view this from a human perspective. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I testify, my television televised, I'm telling lies. This is not a war, it is systematic genocide, but whatever they try, Palestine will never die.
Free my
pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canal-Sud, à Toulouse, donc bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.